Le 13-14 en direct des quartiers nord de Marseille aujourd'hui, Philippe. Ces quartiers nord qui abritent 450 000 habitants, la moitié de la population de la ville. Le taux de pauvreté y est l'un des plus élevés de France. Et dans certaines rues, les trafiquants de drogue et les guetteurs qui crient pour les prévenir régissent la vie quotidienne. Parole d'adolescents, les minots des quartiers, ils ont entre 12 et 14 ans.
On peut pas passer genre dans les routes, on peut pas passer parce qu'ils mettent des barrages pour pas que les policiers viennent. Ils nous connaissent, du coup ils nous laissent passer, mais ceux qui connaissent pas, ils les laissent pas passer.
Après c'est une routine, tous les matins, tous les après-midi, ça craque. Quand la police elle rentre, ça craque.
Pourquoi tu me disais que ça peut donner envie?
Parce qu'il y a de l'argent, c'est de l'argent facile, de ce que j'entends, ouais.
Eh oui, ça crie ara pour prévenir de l'arrivée de la police. Les points de deal les plus rentables génèrent jusqu'à 80 000 euros de chiffre d'affaires quotidien. La lutte contre le trafic de drogue, Emmanuel Macron en a fait la mère de toutes les batailles en matière de sécurité. Quels résultats produisent les multiples descentes de police? Que proposent les candidats à la présidentielle? Que disent les habitants et acteurs de ces quartiers? On voit cela jusqu'à 14 heures en reportage et avec nos invités ici à Marseille. D'abord les grands titres de l'actualité de ce mercredi. C'est avec vous et nous sommes jeudi, Frédéric Barrère.
Bonjour Bruno, effectivement on est jeudi avec le Conseil sanitaire ce matin à l'Élysée. La question sur l'agenda de l'allègement des restrictions sanitaires, il sera annoncé ce soir. Point de presse de Jean Castex, le Premier ministre, et Olivier Véran, ministre de la Santé, pour connaître donc à 19h le calendrier de levée des restrictions. La mobilisation aujourd'hui dans l'éducation nationale, manifestation cet après-midi contre le protocole sanitaire dans les écoles. Moins de 2% d'enseignants grévistes selon le ministère de l'Éducation nationale. Christine Lagarde, plus optimiste ce matin sur France Inter. Selon la présidente de la Banque Centrale Européenne, les prix vont baisser en 2022. Dans ce journal également, nous irons à La Rosière où l'émotion est toujours très vive après la mort hier de Gaspard Huliel, victime d'un accident de ski. Et puis on s'intéressera à la Coupe d'Afrique des Nations de football et à l'équipe d'Algérie au pied du mur ce soir face à la Côte d'Ivoire, Bruno.
Et avant 14h à la scène nationale du ZEF, où nous sommes installés au cœur des quartiers nord, atelier théâtre avec des habitants, la vocation du ZEF est de faire rayonner la culture et les mots, ici comme partout ailleurs. Le 13-14 à Marseille, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
Et nous commençons cette émission sur la terrasse du ZEF, le théâtre qui nous accueille ici dans les quartiers nord. Autour de nous, les tours et les bars des cités de la Paternelle, des Flamands, des Oliviers et de la Busserine face à nous. La banlieue dans la ville, le tout sous le grand soleil de bleu de Marseille. Bonjour Olivier Martoc.
Bonjour Bruno.
Grand ciel bleu, vous qui êtes correspondant de France Inter à Marseille depuis combien de temps?
35 ans.
Alors, ce qu'on voit aussi quand on décrit le paysage là, depuis cette terrasse, c'est que on voit la mer depuis les quartiers nord.
Oui, vous l'avez dit. Ce qui est très important, c'est que les quartiers nord, ils font partie intégrante de Marseille. Ils sont dans Marseille, ils sont dans la ville. Ce ne sont pas des quartiers périphériques, ce ne sont pas des banlieues. Et donc, effectivement, on voit la mer. Effectivement, d'ici, vous êtes sur les plages en 5-6 minutes. Ouais. Alors, vous êtes dans des quartiers pauvres où il y a beaucoup de difficultés, mais vous avez une autre vie que dans d'autres banlieues. Parisienne autour de Paris.
Parisienne, par exemple. Alors ça, c'est le versant lumineux du décor. Le versant sombre, c'est ce trafic de drogue qui gangrène les cités. On estime qu'il y a plus de 160 points de deal à Marseille. Depuis un an, la stratégie contre ces points de deal, c'est celle du pilonnage. Chaque jour, la police en investit 2 ou 3. Et Olivier, vous avez assisté à l'une de ces descentes de police dans le quartier de la Paternelle.
Allez, je vous embarque à bord d'une voiture banalisée avec le commissaire général Lothard, le chef de la division Nord.
Donc là, on va à la Paternelle, petite cité du 14e en face de Mines des Arnavaux, qui est idéalement placée pour le point de vente distribution de stupéfiants parce qu'elle est sur un axe routier. Ce qui fait que les clients sortent à l'autoroute A7 ou sortent de la L2 et viennent s'approvisionner de manière continue parce que le plan est ouvert H24.
Qu'est-ce qu'il fait avec sa Mercedes? Je pense que je vais bien le bloquer, lui. Regardez. Voilà. La cité, elle est à nous.
Allez, voilà, on sent l'adrénaline, la voiture bloquée est un modèle de luxe. Le conducteur qui s'apprêtait à sortir de la cité sera contrôlé comme 93 autres personnes présentes, parmi lesquelles des consommateurs venus s'approvisionner et qui vont devoir rendre des comptes. Décryptage de ce qu'est un pilonnage dans le jargon policier, avec Stéphane Douce, le commissaire qui supervise l'opération.
Dans ce type d'opération, l'objectif c'est d'arriver rapidement et de figer la situation et d'interpeller l'ensemble des guetteurs et des dealers qui sont sur le point. On effectue des contrôles, on regarde s'il y a des gens qui ont de la matière stupéfiante sur eux ou de l'argent, on consulte nos fichiers et s'il y a des choses répréhensibles, on interpelle ces gens et on les met en garde à vue. Quand on est en nombre, là, comme nous sommes avec les collègues CRS, il y a très rarement des incidents.
Bilan judiciaire de ce pilonnage, 4 interpellations. et 600 grammes de drogue saisie.
Alors derrière le commissaire en fond sonore, là dans l'interview, Olivier, on entendait un marteau-piqueur. Ça raconte que ces opérations de pilonnage ne sont pas que répressives, elles s'accompagnent de travaux dans la cité.
Oui, voilà, une quinzaine d'ouvriers vont profiter de la présence policière durant 3-4 heures pour la remettre en état. Le marteau-piqueur, c'était pour casser un ralentisseur en béton qui laissait le temps aux dealers de décamper à la moindre alerte. Virginie Delormel, la directrice de Marseille Habitat, le bailleur social qui gère cette cité, est venue sur place superviser cette partie de l'opération.
Les dealers s'approprient eux-mêmes les espaces, ça leur permet de travailler, ça leur permet aussi, quand ils encombrent les espaces, de nous empêcher d'intervenir, que ce soit nous, nos collaborateurs ou les forces de l'ordre. Et tout ça, ça entretient des quartiers et des lieux finalement qui se déprécient, et c'est fortement dommageable pour la population. Et tout ça, ça coûte très cher, parce que les entreprises qui interviennent ici pour tout déblayer, elles sont quand même rémunérées, ce qui est normal, hein, c'est une prestation de service, de l'argent public, faut pas l'oublier. Et bien tout ça, ça coûte cher.
Alors Olivier, cette opération s'est déroulée il y a 8 jours et vous êtes repassé hier à la paternelle.
Oui, à la même heure, 15h, sur mon vieux scooter.
Bon, et alors, résultat ?
Eh bien, le point de deal était en place. Un magnifique tag sur un mur indique le chemin aux clients. Les transactions se font à l'abri des regards, derrière une nouvelle palissade.
Voilà pour un premier regard sur ces quartiers nord et la lutte contre le trafic de drogue. La suite dans une petite vingtaine de minutes. Frédéric Barrère, avant de vous laisser développer l'actualité du jour, je voudrais partager une image insolite avec vous. Ce matin, à quelques encablures d'ici, à l'entrée justement de la paternelle, nous avons croisé des poules près du rond-point. Voilà, c'est aussi ça, les quartiers nord, c'est cette image. Allez Frédéric, l'actualité du jour. Nouveau conseil de défense sanitaire.
Oui, avec comme objectif donner de la visibilité et un assouplissement des mesures destinées à freiner l'épidémie. Les restrictions sanitaires comme les 3 jours minimum de télétravail, les jauges lors des grands événements et la fermeture des discothèques sont en vigueur jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à dimanche. Le gouvernement qui souhaiterait proposer un agenda pour alléger ces restrictions, et on connaîtra le calendrier de la levée des restrictions ce soir. Le gouvernement est confronté à une situation paradoxale. Si le nombre de cas positifs continue à augmenter et à battre des records de contamination, la pression sur l'hôpital et notamment les services de réanimation tend à stagner. Et le Conseil sanitaire s'est donc appuyé ce matin sur ces chiffres et sur cette dynamique de l'épidémie. Véronique Julia.
Les autorités sanitaires le reconnaissent, elles se seraient bien passées de la remontée des cas ces derniers jours à plus de 400 000 contaminations, alors même qu'on pensait attaquer la décrue. Ça prouve, disent-elles, la fragilité de la situation, qui appelle donc à la prudence et à ne pas relâcher la vigilance de manière trop précipitée. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Omicron constitue désormais plus de 95% des cas positifs. La vague Delta est donc bel et bien en train de s'éteindre. Et avec elle, la tension en soins critiques. Les services de réanimation sont encore bien chargés, avec plus de 3 800 lits occupés, mais avec un peu moins d'admissions depuis quelques jours. En revanche, les hospitalisations classiques restent élevées. On en compte aujourd'hui près de 28 000. Car Omicron, on le sait, ce sont des formes moins graves, des hospitalisations moins longues, mais beaucoup d'hospitalisations quand même. L'hôpital est donc encore sous pression, avec un nombre de patients Covid proche des vagues dures de 2020. Cette situation fait dire à l'exécutif que ces mesures ont fonctionné pour limiter la vague Delta et que le pass vaccinal garde tout son intérêt avec Omicron. Après, on sait aussi que les Français fêtent et que leur offrir dès maintenant la perspective d'un allègement des contraintes d'ici 15 jours pourrait aussi faire du bien à leur morale.
Et en direct de l'Élysée, où se tenait le Conseil sanitaire ce matin, suivi d'un Conseil des ministres, on retrouve Simon Le Baron. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors, les précisions sur l'agenda de levée des restrictions, Simon.
Alors c'est Jean Castex qui annoncera ce calendrier ce soir. Frédéric, nouvelle conférence de presse dans un horizon qui se dégage, selon le porte-parole Gabriel Attal.
Nous avançons enfin pas à pas vers ce qui, nous espérons, pourrait être une vie plus facile encore avec le virus.
Le gouvernement devrait en fait prolonger pour 2 voire 3 semaines les jauges, l'interdiction de boire un café debout ou la fermeture des discothèques. Mais au lieu de dire « on prolonge », le Premier ministre va dire aux Français « on va lever bientôt ». Communication positive, explique un conseiller. Ce n'est pas le moment pour Emmanuel Macron de perdre des points sur sa gestion de crise.
En France, nous avons fait le choix courageux d'un pays ouvert, sans jamais céder à la panique ni au défaitisme, malgré les appels incessants de leurs partisans.
On l'entend, l'élection approche et Gabriel Attal, dans une longue défense du bilan présidentiel, n'hésite pas à lâcher ses coups contre les adversaires du quasi-candidat Macron.
Bien sûr, tout n'a pas été parfait. Mais aujourd'hui, bien plus qu'il y a 5 ans ou 10 ans, les Français peuvent regarder l'avenir avec confiance. C'est sans doute ce constat qui fait enrager les professionnels du pessimisme, les amateurs du déclin et tous ceux qui font commerce d'un prétendu déclin inexorable de notre pays. Pour nous, la conquête, ce n'est pas qu'un état d'esprit. Ce sont des actes, c'est un bilan, et ce sont des faits.
Emmanuel Macron n'attend plus que l'accalmie sur le front de l'épidémie pour se déclarer. Déclaration de candidature qui est décidément une formalité. Même le compte-rendu du Conseil des ministres est devenu une tribune de campagne.
Simon Le Baron avec Yves Lehors en direct de l'Élysée. Merci. Un conseil de défense sanitaire avant la manifestation des enseignants cet après-midi et le même mot d'ordre que la semaine dernière contre la gestion de la crise sanitaire dans les écoles. Ce matin, selon le ministère de l'Éducation nationale, le taux de grévistes des enseignants s'est levé à 1,15% dans le premier degré et à 2,18% dans le second degré. Jackie Balini est le directeur de l'école Pierre Borionne à M-la-Plagne en Savoie. Il est co-secrétaire départemental du SNU IPP-FSU. Et pour lui, la modification du protocole, 3 autotests au lieu d'un PCR plus 2 autotests, ne change finalement rien pour les directeurs. C'est toujours aussi compliqué à gérer.
La seule différence, c'est comme les parents d'élèves ne sont plus obligés d'aller faire un test PCR immédiatement, ça va un petit peu plus vite pour qu'ils puissent revenir à l'école puisqu'ils peuvent faire des autotests. Mais ça fait toujours autant d'élèves absents, présents, absents, représents. Ça complique beaucoup, beaucoup le fonctionnement au quotidien des classes. Et puis pour les directeurs d'école, la charge de travail est toujours aussi incommensurable puisqu'on passe notre temps le soir, le week-end à recevoir l'information des élèves positifs, à contacter tous les parents d'élèves pour les informer qu'il faut qu'ils aillent de nouveau refaire tester leurs enfants, réexpliquer le protocole qu'on a cru comprendre mais qu'à chaque fois il faut qu'on tout relise tout en détail. Donc tout ça, il n'y a rien qui a changé dans tout ça.
Jacques Balini avec François Vintégeau de France Bleu, pays de Savoie. Et puis en bref, à l'Assemblée ce matin, et à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, les députés ont adopté une résolution dénonçant le génocide des Ouïghours par la Chine.
Il est 13h12 sur France Inter. Les craintes des éleveurs de canards et de volailles du Sud-Ouest sont confirmées, Frédéric Barrère.
Oui, ils se préparaient à un abattage massif pour tenter d'endiguer la propagation fulgurante de la grippe aviaire. Annonce ce matin du ministère de l'Agriculture, plus d'un million d'animaux supplémentaires seront euthanasiés. Au total, 2,5 millions de volailles auront été abattues au cœur du pays du foie gras, Kathleen Comte.
Eh oui, 1,2 million de volailles ont déjà été abattues. 1,3 million doivent l'être dans les 3 prochaines semaines, soit vous l'avez dit, un total de 2,5 millions de volailles. Pour faire face au virus de la grippe aviaire, le gouvernement accélère sa stratégie de vide sanitaire dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et le Gers. C'est là que Benjamin Constant élève plus de 7,000 canards. Il est également membre du comité interprofessionnel de foie gras et comprend les mesures gouvernementales.
C'est extrêmement dur humainement et on est vraiment abasourdi de ce que nous revivons. Les stratégies en place, malheureusement, on les connaît trop bien et on sait que c'est une question de rapidité aussi. C'est la suite logique par rapport à des remontées de terrain où il y a des difficultés pour aller plus vite que le virus, puisque cette année, nous sommes malheureusement confrontés au fait que les palmipèdes soient touchés, mais aussi aux volailles, ce que nous n'avions pas les autres années.
En attendant de savoir si son exploitation est concernée, il demande au gouvernement d'être à la hauteur des efforts faits par les éleveurs.
J'espère vraiment que l'État accompagnera les gens qui sont dépeuplés de manière vraiment économiquement juste par rapport à tous les efforts qui ont été faits et par rapport à la valeur aujourd'hui de nos animaux qui n'a rien à voir à la valeur de l'année dernière puisque vous savez très bien que l'ensemble des coûts de production sont beaucoup plus onéreux cette année que l'année dernière.
En tout, 226 communes sont concernées par les annonces du ministère de l'Agriculture.
Kathleen Comte, merci. L'économie, alors que le taux d'inflation atteint 5% dans la zone euro et que les prix de l'énergie sont au plus haut et qu'il y a des embouteillages dans les ports sur les marchandises, Christine Lagarde réaffirme que les prix vont se stabiliser puis finir par baisser en 2022. La présidente de la Banque Centrale Européenne était l'invitée ce matin du 7-9 de France Inter. Elle a également estimé que le quoi qu'il en coûte qui a bien servi, mais qu'il va falloir maintenant décrocher. On écoute Christine Lagarde.
Nous considérons que pendant l'année 2022, ça va se stabiliser et baisser graduellement au cours de l'année. Ça va baisser moins que ce qu'on avait envisagé tous les économistes de la planète, il y a un an, mais ça va baisser.
Combien ?
On est incapable de dire. Et si je vous disais un chiffre aujourd'hui, je vous dirais quelles sont nos prévisions du 16 décembre 2021 qui voient l'inflation aller pour l'année 2022 à 3,2%. Donc 3,2% sur l'ensemble de l'année. Ça va varier, ça sera sans doute nettement moins en France, parce que la France est en dessous de la moyenne européenne, mais on voit une baisse, et on voit cette baisse se poursuivre pendant l'année 2023, l'année 2024, parce que les prix de l'énergie vont pas continuer à augmenter de manière indéfinie, et les embouteillages vont finir par se résorber.
Christine Lagarde, ce matin, avec Nicolas Demorand et Léa Salamé. François Baroin s'éloigne encore un peu plus de la politique. L'ancien ministre, maire de Troyes dans l'Aube et figure de la droite, vient d'être nommé président de Barclays France, la filiale de la banque britannique, Bruno.
13h15 sur Inter, Frédéric Barrère, l'émotion est toujours très vive à la Rosière en Savoie. Après la mort de Gaspard Huliel, victime d'un accident de ski.
La session de ski est ce matin encore sous le choc de la disparition de l'acteur. Il s'agit du deuxième décès sur une piste depuis le début de la saison en France. La semaine dernière, déjà une fillette de 5 ans a perdu la vie après avoir été percutée par un skieur en Haute-Savoie. Sur place, à la Rosière, Christophe Vincent.
À la Rosière, ces jours blancs, comme le ciel, la faible visibilité incite les skieurs à la prudence, d'autant plus que l'issue fatale du drame a marqué les esprits. Laure est en vacances toute la semaine.
Moi j'ai vu les secours, mais je me suis jamais dit qu'il allait y avoir quelqu'un qui allait décéder. Sur les pistes noires, rouges ou même le hors-piste, les gens font vachement attention parce qu'ils se disent qu'ils peuvent tomber, alors que sur une piste bleue, les gens foncent à toute vitesse, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas de protection, pas de casque, enfin ça arrive super vite. Il y a tous les débutants qui passent par là, donc si quelqu'un ne maîtrise pas, ça arrive super vite, malheureusement. Ouais.
Thomas connaît bien cette piste très fréquentée et il s'interroge.
C'est toujours choquant d'apprendre un décès sur une piste de ski, surtout que nous, on la pratique depuis maintenant une semaine. On a de l'appréhension quand même, on ne va pas se mentir. On porte le casque, on fait attention et c'est vraiment une piste qu'on prend tous les jours. Elle est adaptée à tous les niveaux de ski, donc c'est pour ça que c'était un peu étonnant. Ça reste très difficilement compréhensible. Après, malheureusement, ça peut arriver.
Un travailleur saisonnier n'est pas surpris. En janvier, dit-il, il y a peu de monde, les skieurs se lâchent et avec le casque, certains se croient invulnérables. À la Rosière, Christophe Vincent, France Inter.
Et puis dans le Jura, la douleur incommensurable après la mort de 4 lycéens champagnols et ses 10 000 habitants se sont réveillés ce matin, saisis par l'effroi après la mort de 4 élèves du lycée de la ville dont la voiture est tombée dans les eaux glacées d'un lac du Jura. Nous faisons face pour pouvoir accueillir l'ensemble des élèves qui ont besoin de notre soutien, a expliqué le proviseur du lycée Paul-Émile Victor, Ronald Grec. Au Maroc, après l'assassinat d'une touriste française âgée de 79 ans, poignardée à mort sur un marché de Tiznit dans le sud marocain, le parquet national antiterroriste à Paris a ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. La ressortissante française résidait dans un camping au Maroc. Un suspect âgé de 31 ans a été arrêté le même jour à Agadir, tout près des lieux du crime. Christian Chéneau.
L'homme était déjà connu des services marocains qui le soupçonnent d'avoir tenté d'assassiner une ressortissante belge à Agadir. Elle avait elle aussi été attaquée à l'arme blanche par l'assaillant, mais ses jours ne sont pas en danger. Après l'assassinat de la touriste française, la police marocaine avait conduit le suspect dans un hôpital psychiatrique en vue d'une expertise médicale. Mais aujourd'hui, l'enquête des services de sécurité s'oriente vers un mobile terroriste du crime, d'où l'ouverture d'une enquête similaire en France. Avec cette affaire, le risque terroriste ressurgit de nouveau au Maroc. Fin 2018, deux touristes scandinaves avaient été décapités par les membres d'une cellule de l'État islamique dans les montagnes du Haut Atlas. Régulièrement, la police marocaine démantèle des réseaux terroristes dont les membres ont parfois combattu sur le front syro-irakien et qui sont rentrés au pays. Malgré tous ces efforts, la menace d'attentat reste présente. Dans ce contexte, le Quai d'Orsay recommande aux ressortissants français au Maroc de faire preuve de vigilance dans l'ensemble des lieux publics et lors de leurs déplacements dans le royaume.
Christian Chéneau, la Coupe d'Afrique des Nations de football et tout se joue ce soir pour l'Algérie. L'Algérie, championne en titre de la CAN, est au pied du mur ce soir pour éviter une élimination dans la version 2022 au Cameroun, dernier de leur groupe. Avec un petit point seulement, les Fenex algériens doivent absolument battre la Côte d'Ivoire cet après-midi s'ils veulent passer en huitième de finale. L'enjeu est important et avant le match, on a voulu prendre la température à Lille où la boutique DZ Fan Store vend des produits officiels de l'équipe algérienne de foot, l'une des seules boutiques en France à le faire. Et à Lille, on est plutôt optimiste et toujours aussi fier de la Belle Oumrie.
Dans une rue autour de la Grand Place de Lille, impossible de rater le DZ Fan Store. Les Fenex sont prêts, écrit en gros sur la devanture, à l'intérieur du blanc, du vert partout, et lui...
Moi c'est Mohamed. Étant un grand fan et passionné de l'équipe nationale, je me dois d'acheter un maillot et prendre la température avant le match. Pour l'instant, le Fenex est une bête blessée, et j'espère qu'on va vite se soigner et revenir au maximum de nos compétences, parce qu'on peut le faire.
Contre la Côte d'Ivoire, aucun doute pour Yanis.
Ils vont le faire. Victoire obligatoire, après c'est dans les grands matchs qu'on voit les grandes équipes.
L'un des vendeurs, c'est Makin, il est équipé de la tête aux pieds.
J'ai un pull gris d'entraînement, un pantalon de training Algérie. Et là, on peut voir en dessous de mon pull d'entraînement, j'ai un maillot de match officiel.
Ah ouais?
Avec le badge champion.
Et sous le maillot, il y a encore quelque chose?
Ah, sous le maillot, écoutez, il y a mon cœur pour l'Algérie.
Dans la boutique, Maïdine est au téléphone avec son frère. Et il lui a pris
le pull doré de l'Algérie. Moi, je prends le maillot en blanc. Je suis très fier d'être DZ, alors j'y crois vraiment. L'Algérie gagne de but et passe premier.
On va gagner.
Puis, comme le rappelle Makin,
je sais qu'ils vont donner leur maximum, comme le coach l'a dit. tant qu'ils sont pas morts, il y a toujours de l'espoir.
L'espoir fait vivre ses supporters algériens, au moins jusqu'au coup de sifflet final à 18h50.
Voilà, reportage d'Adel Belloumri. Algérie, Côte d'Ivoire, Bruno, coup d'envoi à 17h.
Et quelque chose me dit qu'on suivra ça aussi à Marseille tout à l'heure. Merci, c'était le journal de Frédéric Barrère. Le temps de ce jour dans un instant.
Pour suivre son traitement,
gardez ses repères chez Capital. Les originals du laboratoire Organon, c'est 22 médicaments.
Au prix de leur générique, l'idéal.
Parlez-en à votre médecin ou allez sur organon.fr.
Au terme d'Eugénie Les Bains, joli village des Landes, nous prenons soin de vos articulations, de votre poids, de votre santé. Chaîne thermale du soleil, prendre soin de vous, c'est notre métier.
Après les choses humaines, prix Goncourt des lycéens, Gallimard présente La Décision, le nouveau roman de Karine Thuil. Mai 2016, dans une aile ultra sécurisée du palais de justice, la juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie. À ce dilemme professionnel s'en ajoute un autre plus intime. Alma entretient une liaison avec l'avocat du mis en examen. Entre raison et déraison, sa décision risque de bouleverser sa vie et celle du pays. La Décision de Karine Thuil, un roman Gallimard.
Journée idéale, point de vue météo, aujourd'hui à Marseille. Qu'en est-il ailleurs ?
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, soleil autour de la Méditerranée, mais beaucoup de nuages ailleurs.
Oui, en effet, du soleil en Méditerranée, mais avec du vent, jusqu'à 80 km/h possible, et même 100 km/h ce soir pour le Mistral. Les éclaircies, on en trouve aussi entre la Bretagne, la Vendée, la région parisienne et le littoral du Pas-de-Calais. Et puis ailleurs, en effet, avantage pour les nuages, quelques averses des frontières du Nord à l'Alsace, parfois sous forme de neige vers 300 mètres, un petit peu de neige aussi sur les Pyrénées vers 900 mètres d'altitude, un peu de pluie sur les plaines du Sud-Ouest, et puis les températures, elles ressemblent à celles d'hier. 4 degrés à Lyon, 6 à Lille, Mulhouse, Limoges, 7 degrés à Paris et à Toulouse, 10 à Marseille et 14 à Nice ou à Bastia.
Élodie Calac, Météo France, quelle politique de lutte contre les trafics de drogue ? C'est notre sujet jusqu'à 14h en direct des quartiers nord de Marseille.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
Et nous sommes au théâtre du ZEF, scène nationale, dans un bâtiment qui a une histoire. Je vous la raconterai tout à l'heure. Mais prenons à nouveau de la hauteur, comme au début de cette émission. J'ai face à moi, de l'autre côté de la route, une tour qui marque l'entrée du quartier de la Busserine. C'est là que se sont rendus hier soir Sarah Guibaudot et Claire-Sophie Collet, chez un habitant militant associatif qui a voulu garder l'anonymat. C'est révélateur d'un climat. Cela fait une quarantaine d'années qu'il vit à la Busserine et de son balcon, il nous décrit le quartier qu'il connaît par cœur. C'était autour de 19h.
Vous voyez un peu plus loin un brasero. En début de soirée, comme il fait très froid dehors, donc les trafiquants, les guetteurs allument des petits braseros pour se chauffer. Vous en avez un ici en bas. L'entrée de ces immeubles est complètement filtrée. On a eu ce même problème ici. On a eu pendant plusieurs mois des barrages filtrants dont on s'est débarrassé à force d'alerter la police et les institutions.
En effet, on est venu vous voir parce que vous faites partie du groupe de veille de la Busserine. Expliquez-moi quelle a été votre action, donc, notamment pour vous débarrasser de ces barrages filtrants.
On s'est dit, là, tous les acteurs un peu de ce territoire, les acteurs associatifs, on s'est dit qu'il faut qu'il y ait un collectif qui soit à la fois un groupe de parole, mais aussi des lanceurs d'alerte. Il y a à peu près autour d'une vingtaine de guetteurs dans le quartier, au moins. Alors, un phénomène nouveau, c'est qu'il y a de plus en plus de migrants qui se font harponner par les réseaux. Et puis, il y a aussi un certain nombre de gamins qui viennent d'autres villes de France, et entre autres de Paris, de Lyon. Il peut y avoir des périodes où il y a plus de tensions et de la violence. Par exemple, en 2018, des voitures avec des jeunes cagoulés sont rentrées dans le quartier et ont rafalé en l'air avec leur kalachnikov. Les démonstrations de force, ça peut être aussi tous ces mortiers d'artifice qui sont lancés en l'air jusqu'au bout de la nuit et qui empêchent les gens de dormir. Tout ça pour fêter un petit peu la recette de la journée.
Est-ce que vous avez l'impression que les choses ont commencé à changer dernièrement ?
La police quand même vient de temps en temps, mais elle vient d'une manière très ponctuelle. Elle peut faire une ou deux arrestations de temps en temps, mais fondamentalement, il n'y a rien qui bouge. Les trafics prospèrent.
Voilà, le décor est posé. J'accueille nos deux premières invitées dans le cadre de ce 13-14. Bonjour Frédéric Camilleri.
Bonjour.
Vous êtes la préfète de police des Bouches-du-Rhône et bonjour Laurence Bellon.
Bonjour monsieur.
Présidente du tribunal pour enfants de Marseille et toujours à mes côtés, Olivier Martoc, la voix de France Inter à Marseille. Madame Camilleri, il y a quasiment un an, jour pour jour, vous lanciez la stratégie dite du pilonnage, des descentes de police très régulières sur les points de deal. On est à quel rythme de descente de police, quoi? 2 à 3 par jour?
C'est même plus que ça, on est désormais à 4 à 6 cités tous les jours qui font l'objet de ces opérations de pilonnage, qui sont des opérations renforcées par des effectifs des CRS,
oui.
Puisque depuis mars 2021, j'ai 2 compagnies de CRS, 120 policiers, tous les jours pour faire ces opérations, en complément des opérations quotidiennes des services de police locaux. Et donc, nous menons ces opérations 4 à 6 fois par jour, avec d'autres partenaires, ça a été dit dans le reportage, les bailleurs sociaux, les associations parfois qui peuvent être dans les quartiers, des huissiers aussi qui doivent, oui, reprendre des appartements squattés. Donc c'est une approche globale aussi de la sécurité dans ces quartiers-là. Et le principe, c'est d'y être tous les jours, de façon massive, régulière, répétée.
Quand vous dites massive, très concrètement, ça se passe comment? Il y a combien de personnes qui déboulent, si j'ose dire? Est-ce qu'il y a un travail de renseignement avant? Ou c'est vraiment du quotidien, comme ça, de la descente quotidienne?
C'est une opération en deux temps. Dans un premier temps, pour un souci de discrétion, vous allez avoir quelques effectifs des unités spécialisées dans la lutte anti-drogue, donc les BST, les brigades spécialisées de terrain ou la BAC, qui vont surveiller le point de deal, faire une surveillance rapide, et puis intervenir en flagrant délit pour interpeller. L'objectif, c'est vraiment d'interpeller les trafiquants et leurs complices. Et très vite après, dans la foulée, les effectifs de CRS déboulent dans la cité, ferment les accès, contrôlent les personnes et fouillent les parties communes pour pouvoir retrouver de la drogue, des armes ou de l'argent qui peuvent être cachés dans les parties communes. Donc c'est vraiment une approche en deux temps et l'objectif c'est d'avoir un résultat policier aussi, c'est-à-dire des interpellations,
combien,
des saisies.
Combien par en moyenne, je ne sais pas s'il y a un calcul possible, mais combien par descente de police?
Dans le travail quotidien qui est fait, oui, on a les chiffres de 2021,
oui,
nous avons interpellé 1700 trafiquants à Marseille.
Et après, ils sont devenus quoi?
D'abord, c'est un chiffre inédit,
oui,
donc je ne veux pas passer rapidement là-dessus. Une augmentation de 50% par rapport aux meilleures années. Donc voilà, c'est ça le résultat. Ces personnes-là rentrent dans le système judiciaire ensuite.
Oui.
Donc elles vont être présentées à un officier de police judiciaire, mises en garde à vue, éventuellement passer devant un magistrat, devant un tribunal, être condamnées ou relâchées. Enfin,
oui,
voilà. Après, c'est le travail judiciaire qui va prendre la suite.
On détaille et on continue le questionnement dans une minute. Je voudrais qu'on entende notre autre invité, Laurence Bellon, présidente du tribunal pour enfants de Marseille. Vous avez exercé auparavant à Lille, à Lyon, me semble-t-il. Et vous nous disiez, en préparant cette émission, je voudrais insister sur le niveau de violence.
Oui, j'ai toujours travaillé dans des grandes villes, Lille, Lyon. Mais le niveau de violence que j'ai constaté depuis que je suis arrivée à Marseille il y a 4 ans m'a toujours laissé pantoise.
Oui.
À des moments, j'essaye de me révolter. À des moments, je suis démunie, comme mes collègues d'ailleurs. Oui, j'ai jamais connu ce niveau de violence.
Qui se manifeste comment?
Alors, il se manifeste déjà vis-à-vis des jeunes trafiquants qui nous sont présentés après les interpellations, oui, que vient de décrire la préfète. Alors, pas à leur première interpellation ou quand ils rentrent dans les circuits, mais quand on sent qu'ils sont là depuis un certain temps et qu'ils ont déjà fait des allers-retours entre le tribunal et les points de stup, on se rend compte qu'ils ont souvent été victimes de violences. Alors quand je dis violence, c'est un terme très générique, et dans la réalité, c'est très précis, hein. C'est des actes de jambisation, c'est-à-dire on tire dans les jambes à balles réelles, c'est des tabassages, c'est des séquestrations, c'est des brûlures au chalumeau, y compris, je suis désolée de... Enfin, bon, bref.
Non, mais on est là pour dire les choses.
Voilà, des actes de... J'ai déjà vu un mineur avec le dos entièrement lacéré au couteau,
oui,
avec des cicatrices grosses comme le... J'ai jamais vu ça ailleurs, voilà.
Vous avez face à vous des adolescents ou des jeunes adultes de quel âge?
Alors, si on parle des jeunes pour le trafic de stupéfiants, en gros, on est à... je dirais 15-18 ans. Il y en a quelques-uns plus jeunes, c'est vrai, mais la moyenne, c'est plutôt 15-18 ans. Est-ce enfin, 15-17 ans moins, 18 ans moins un jour.
Est-ce qu'à travers les dossiers que vous avez, vous parvenez à retracer le processus de recrutement, si j'ose dire?
Alors, le recrutement... Alors, Madame la préfète a évoqué un phénomène qui date de quelques années. Il y a effectivement 20% de mineurs qui nous sont déférés pour les stupéfiants qui viennent de la France entière et de la région parisienne en particulier. Ça, c'est nouveau. Il paraît que les chefs de réseau ont plus de mal qu'avant à recruter des jeunes Marseillais parce qu'il y a une pression des quartiers, un soutien des quartiers, etc. Donc ils vont les chercher ailleurs parce qu'ils sont sans filtre, sans filet, sans...
Via les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on recrute ?
Oui, paraît-il. Enfin bon, réseaux sociaux. Les autres viennent... Alors les jeunes Marseillais, en général, viennent, dans ce qu'ils nous décrivent, plutôt spontanément sur les lieux de stupéfiants. En se proposant comme, je dirais...
Comme petite main.
Les ouais. mécanismes qu'ils décrivent ressemblent un peu au mécanisme de la grève.
De la place de grève.
La place de ouais. grève, c'est-à-dire ils viennent et ils proposent leur service.
Olivier, je vous voyais approuver quand Mme Bellon parlait des recrutements de l'extérieur.
Oui, parce que ce qu'il y a de nouveau, c'est que vous voyez arriver de plus en plus de migrants. C'est-à-dire que vous avez ceux qui tiennent les cités, qui font appel maintenant à des migrants dont ils ne sont pas connus. Et ça permet, quand vous avez des centres de policiers, effectivement, on arrête des migrants, du coup, et ça ne met pas à bas complètement le réseau. Et ça, c'est assez nouveau, je crois que ça a un ou deux ans, avec des réseaux qui viennent notamment de l'autre côté de l'Afrique, avec des gens qui sont eux aussi particulièrement violents.
Alors, réponse de nos deux interlocutrices, Frédéric Camilleri.
C'est pas le phénomène qui me frappe le plus. Moi, ce que je constate, c'est plutôt qu'on recrute des personnes dans d'autres régions que la région marseillaise. Je veux croire que c'est aussi parce que l'action de la police et l'action de la justice permettent d'interpeller encore plus massivement et facilement l'ensemble des participants à ce réseau-là. Donc personne n'est protégé par son statut, par sa minorité, par son statut de guetteur, donc qui ne touche pas le produit. Et donc, je crois qu'il y a une difficulté effectivement pour les réseaux à recruter ici à Marseille. Donc ils ont tendance effectivement à aller chercher des jeunes ailleurs, qui sont des jeunes souvent vulnérables, en rupture familiale, en rupture sociale.
Et pardon, je repose ma question, comment ils vont recruter un jeune à Lyon, à Nancy, à Lille ?
Alors, il y a une certaine réputation de Marseille, malheureusement, qui va attirer ces jeunes-là. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Et on a déjà trouvé, c'est pas très rare, hein, des annonces de recrutement sur les réseaux sociaux.
Frédéric Camilleri, sur l'effet de la stratégie de pilonnage que vous nous décriviez il y a un instant, je voudrais vous faire entendre les propos de Clara Grandet, qui est juge d'instruction à Marseille et qui est déléguée du syndicat de la magistrature. Et puis, j'aimerais avoir votre réaction ensuite.
Les logiques de pilonnage des cités, on comprend que c'est intéressant en termes d'ordre public, en termes d'affichage, en termes statistiques aussi, parce que c'est sûr que une opération dans une cité, ben, ça permet d'interpeller une dizaine de personnes, de faire quelques saisies. Il y a un gain qui est immédiat. Au niveau judiciaire, c'est ensuite des affaires qui viennent nourrir des procédures rapides de comparution immédiate, qui viennent charger des audiences. Pour un coût, si vous voulez, qui peut paraître un peu disproportionné, puisque dès le lendemain ou quelques jours après, un point stup a repris sa place. Donc, nous, judiciairement, on préfère faire des investigations longues qui permettent de démanteler les réseaux, d'approcher ceux qui sont les plus haut placés, plutôt que les petites mains du trafic, dont on ne sait pas trop quoi faire à l'audience d'ailleurs, parce que souvent c'est des très jeunes qui n'ont pas de casier judiciaire, ou alors dont on voit bien qu'ils sont dans une situation très précaire, qui viennent parfois même d'autres villes, hein, qui ne sont pas forcément des Marseillais, alors que on sait par ailleurs à l'instruction qu'on a des dossiers qui attendent, parce que les services de police qui font vraiment de l'investigation, qui font vraiment des enquêtes au long cours, eux sont débordés, insuffisamment dotés. Économiquement, c'est quand même très très lucratif. Ce serait beaucoup plus intéressant de saisir des valises d'argent plutôt que des valises de résine de cannabis.
Un propos recueilli par Sarah Guibaudot. Il y a 8 juges d'instruction pour les trafics à Marseille. Corrigez-moi si je me trompe. 4 pour juger les trafics, si j'ose dire quotidiens. 4 pour les trafics de plus grande envergure. Frédéric Camilleri, vous qui êtes préfète de police des Bouches-du-Rhône, réponse sur 2 points. D'abord, les points stup, à peine démantelés, se reconstituent dans la demi-heure. Que dites-vous à cela ?
Je vais répondre globalement à cette intervention. Tout d'abord, le travail que l'on fait dans le pilonnage n'est pas exclusif du travail qui est fait par la police judiciaire pour démanteler le haut du spectre. Et on a des résultats qui sont là aussi inédits. Donc ce n'est pas parce qu'on est plus sur le terrain qu'on est moins sur l'investigation.
Inédit, c'est-à-dire vous nous donniez des chiffres précis tout à l'heure sur les descentes de police, sur les arrestations. Pour le haut du spectre, vous avez des chiffres
On a des arrestations, par exemple, en 2021, 7 narcotrafiquants d'envergure internationale interpellés par la police judiciaire de Marseille, dont 4 à l'étranger.
J'entends la réponse globale, mais je voudrais une réponse précise, s'il vous plaît, sur ces points de deal qui se reconstituent tout de suite après.
Alors, ensuite, toutes les personnes qui sont interpellées rentrent dans le système judiciaire. Ouais. C'est une chance pour eux aussi de sortir de l'emprise de leur réseau. Moi, je ne me résous pas à laisser faire ça. Ensuite, le point de deal se reconstitue, certes, mais moi j'ai des chiffres qui démontrent que là où il se reconstitue, par l'effet du pilonnage, il va avoir une activité moins importante et petit à petit, il s'effrite. On passe de chiffre d'affaires de 50 000 euros par jour sur certains points à 7 000 euros par jour. Qu'on ne me dise pas que ça le fait pas mal aux trafiquants. Sur ces opérations de pilonnage, la division Nord a saisi en 2021 1 million d'euros en argent liquide, une tonne de cannabis. C'est plus important que certaines affaires judiciaires qui vont prendre des années en termes d'investigation. Donc moi, je conteste le fait que ces opérations de pilonnage ne produisent pas des résultats policiers et des résultats judiciaires, parce que je les vois, y compris en comparution immédiate, quand ils écopent de prison ferme, et aussi de tout le travail d'accompagnement ensuite de réinsertion dans la société.
Laurence Bellon, quand on entendait la juge Clara Grandet nous dire « je préférerais qu'on attrape des valises de billets que des valises de shit », et les gamins qui sont arrêtés et ensuite déférés, on ne sait pas trop quoi en faire, ils encombrent en partie les tribunaux, qu'est-ce que vous dites de cela ?
Alors, 60-70% des mineurs rentrent à Marseille par la voie du déferrement, c'est-à-dire menottes aux mains, ce qui est un chiffre énorme par rapport à la moyenne nationale, même des grandes villes. Le travail d'un juge des enfants n'a pas grand-chose à voir avec le travail d'un juge d'instruction, parce que nous, on est en charge, d'une part, de la protection des enfants en danger qui habitent dans ces cités, la Busserine, la Paternelle, etc., et ensuite de répondre à la délinquance des adolescents qui habitent dans ces cités. Alors, ils travaillent comme des fourmis et nous-mêmes, on travaille au plus près de l'histoire familiale, personnelle, etc. Mmh. On fait un travail à la fois de répression. Il y a beaucoup de mineurs partent en détention, alors sur des peines plus, ou des durées plus courtes que les majeurs, mais partent en détention. Mais après,
durée courte, ça veut dire quelques mois.
Oui, sur des moyennes. Les quantités qu'on a, les mineurs qu'on arrête, c'est avec des quantités, je dirais 30, 100 grammes, 200 grammes de cannabis et quelques grammes de cocaïne. On n'est pas sur des kilos. Quand vous êtes sur des kilos, ça se compte effectivement plutôt en années.
Est-ce que vous mesurez l'effet de la prison sur ces mineurs ?
La prison en elle-même, non, il n'y a pas de... comment on va dire ça ? Si la prison n'est pas précédée, accompagnée et suivie d'un travail de fond...
Oui.
Alors, travail de fond, c'est pluridisciplinaire, hein, c'est les professionnels de la PJJ, c'est l'éducation nationale, c'est la santé, c'est la justice aussi. Hein,
PJJ, les aspects... police judiciaire de la jeunesse.
Oui, pardon.
Non, je vous en prie.
Les éducateurs du ministère de la Justice, un temps de prison en soi n'a pas d'effet sur le long terme. Voilà. Surtout qu'ils sont récupérés ensuite dans leur propre cité. Là où je suis plus inquiète, moi, c'est le principe de l'interpellation, c'est vrai. Mais après interpellation, en général, soit il y a à peu près 20% de ces mineurs qui arrivent à sortir à partir d'une interpellation, on arrive à les extraire du réseau et de cette emprise. Mais il y a 80% qui sont obligés d'y retourner par un phénomène de dette qui est très fort, très violent et qui fait qu'on rentre dans un cycle infernal dont il est très difficile de les sortir.
Pardon, phénomène de dette, ça veut dire je dois de l'argent à quelqu'un du quartier.
Vous vous êtes fait interpeller avec 100 grammes,
ouais.
Et ben vous devez les 100 grammes. Vous vous êtes fait interpeller avec 15 grammes parce que par chance c'était la fin de la journée, ben c'est mieux. Mais vous faites interpeller avec tant de grammes, vous avez la dette. Voire, ils inventent des dettes pour vous obliger à retourner sur le terrain. Je leur dis, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'ils vous remettent sur le trottoir ? J'utilise volontairement l'expression pour leur montrer à quel point ils sont dans une relation d'emprise dont il est très difficile de sortir et où les parents ont beaucoup de mal. Certains parents paient eux-mêmes la dette pour essayer de sortir le jeune de ce processus. Parfois, on essaye de les envoyer à l'extérieur de Marseille, mais encore faut-il trouver des membres de la famille élargie ou des solutions. Il y a une véritable emprise et menace emprise et menace, vraiment physique par rapport à eux. Donc l'interpellation, c'est bien,
oui,
mais tout seul, sans l'environnement, c'est pas possible.
Et je retiens ce chiffre, 20% peuvent être sortis du cycle infernal, 80% reviennent. Vous dites, Frédéric Camilleri, c'est mieux que rien, 1 sur 5.
Mais moi, mon travail, c'est quand même de lutter contre la délinquance, c'est de pouvoir rendre ces quartiers aux habitants qui sont les premières victimes de ces trafics. Donc, dès lors qu'on constate une infraction, on interpelle, on verbalise avec l'amende forfaitaire délictuelle pour les usagers de stupéfiants.
Combien d'amendes et quel sens mettez-vous dans cette politique-là ?
Eh bien, 16 000 amendes dressées dans les Bouches-du-Rhône depuis la création du dispositif. C'est 12% du total des amendes dressées en France. Donc il y en a plus d'une sur 10 qui a été dressée dans les Bouches-du-Rhône et en grande partie à Marseille. Pas que dans les quartiers nord, et j'insiste là-dessus. Dans les quartiers...
Non, parce que les consommateurs
riches,
sont aussi dans les quartiers
plus
centraux.
Aisés, ouais. Qui sont aussi les consommateurs.
Ouais.
Et donc le sens de ça, c'est de dire aux consommateurs, vous êtes le premier maillon de cette chaîne qui peut se terminer par un drame avec quelqu'un qui va tomber sous les balles du camp adverse.
Est-ce que vous mesurez l'effet que ça a sur les consommateurs, c'est-à-dire je prends une amende, je prends une deuxième amende, est-ce qu'il y a des gens qui consomment moins, qui consomment plus ?
D'abord, c'est une sanction pénale, cette amende-là, et elle est inscrite au casier judiciaire. Ce que les gens ne le savent pas forcément, ça veut dire que tous ceux qui vont ensuite se présenter pour des professions réglementées, demander un accès à l'aéroport, au port, ne pourront sans doute pas l'avoir en raison de cette amende. Ensuite, on ne peut pas rentrer dans un cycle de plusieurs amendes, parce que au bout de la deuxième fois, le parquet s'en mêle et le parquet demande à ce que la personne soit présentée et qu'une procédure judiciaire complète soit mise en œuvre. Donc, on n'est pas dans un système où vous avez le droit de consommer sous réserve de payer votre amende. On n'est pas du tout là-dedans, on est dans une sanction pénale et on rappelle par cette amende-là que le consommateur porte une très lourde responsabilité dans ces trafics.
Laurence Bellon et puis Olivier Martoc vont intervenir.
Je me souviens d'un collègue qui disait il faut que la République soit présente dans ces quartiers quand on parlait de la politique de déferlement et je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc la politique de, on va dire, de pilonnage et puis ensuite d'interpellation me paraît importante. Mais si on veut vraiment traiter la question de la du trafic de stupéfiants sur Marseille et toute la violence et la délinquance que ça entraîne, il faut intégrer dedans l'action d'autres partenaires que simplement police-justice. Il faut un travail de concertation, préfecture, mairie, les hôpitaux, ouais, justice, etc. Et ça, il me semble qu'on n'est pas très opérationnel. Chacun travaillant dans sa boutique, excusez-moi l'expression, ouais, mais la concertation, il manque quelqu'un de vraiment fédérateur. Les seuls qui sont vraiment, je voudrais quand même le dire, les seuls qui sont vraiment présents au quotidien, tout le temps, c'est l'éducation nationale, la PMI, la protection judiciaire de la jeunesse, bon, mais c'est un peu normal, mais ils sont pas très nombreux par rapport aux autres, mais l'éducation nationale, par exemple, fait un travail de maillage et de terrain qui est essentiel. S'il n'existait pas, par exemple, la justice en protection de l'enfance ne pourrait pas intervenir.
Vous voulez dire, dans les quartiers, la présence, oui, quotidienne, c'est celle, oui, des enseignants, enfin, de l'éducation, oui, nationale et de la PMI.
Et la PMI. Et la police, bien sûr, police-justice. Non, mais bien sûr, puisqu'on est là...
Vous allez avoir des soucis avec la préfète.
On est là toutes les deux.
Je ne partage pas totalement la vie de Madame Bellon, pardonnez-moi.
On est là toutes les deux pour ça et pour représenter. Mais je veux dire, sans ce maillage dans la société, nos actions deviennent hors sol et tournent un peu dans le vide.
Frédéric Camilleri, je vous redonne la parole. Juste, je m'en veux de ne pas vous avoir relancé, entre guillemets, Madame Bellon, sur les familles tout à l'heure. Les familles, est-ce que vous avez prise sur elles ou pas?
Alors, la plupart des familles, on les rencontre au moment du déferlement, c'est-à-dire les parents sont là et sont présents. Je témoigne que je dirais aussi 80% des parents sont mobilisés, sont effondrés, sont en difficulté et sont vraiment confrontés à des choses, par exemple quand ils doivent payer la dette d'un enfant, c'est très difficile. Donc dire que les parents sont démissionnaires, c'est pas mon expérience quotidienne. Il y en a, bien sûr, mais c'est pas l'expérience quotidienne. Ils sont confrontés quand même à des absurdités totales. C'est-à-dire que quand il y a de la violence, comme celle des cités, ils vont chercher les gamins à la sortie de l'école, ils rentrent à la maison, ils ferment les volets. Il y a des gamins qui, pour aller à l'école, sont obligés de passer par les toits des immeubles, parce que les ascenseurs sont bloqués, qu'il y a des matelas qui bloquent l'entrée de l'immeuble, etc. Je veux dire, on est quand même, à certains moments, dans des contextes qui sont hors normes et que je n'ai jamais vu ailleurs et qui mériteraient une mobilisation de tous les partenaires de l'État.
Frédéric Camilleri, un tout dernier mot, et puis après je voudrais qu'on accueille nos autres invités rapidement, s'il vous plaît.
Oui, non, je suis d'accord, il faut un travail collectif pour sortir de cette situation-là, mais ce travail, il existe déjà dans ce qu'on appelle les conseils de sécurité d'arrondissement. Tous les 15 jours à Marseille, une vingtaine ou une trentaine de partenaires autour de la table, autour de la police nationale, pour régler les problèmes du quotidien et travailler ensemble, y compris sur des situations très précises, concrètes. Hein, on n'est pas là pour faire de la parlotte, on est là pour régler les problèmes. Ensuite, une relation avec le parquet très forte. La justice est notre partenaire quotidien. La mairie de Marseille, les directeurs de centres sociaux que l'on réunit aussi régulièrement, les directeurs d'école.
Donc il y a un travail de coordination.
Il y a un travail de partenariat et qu'il faudra sans doute approfondir et aller encore plus loin. Et c'est comme ça qu'on en sortira.
Un tout petit mot, est-ce que vous pouvez avoir une réponse courte? Vous nous disiez 4 narcotrafiquants arrêtés l'année dernière à l'étranger. Où?
Alors en Afrique du Nord, aux Émirats Arabes Unis et en Colombie. Pour vous dire, c'est très international.
Merci Frédéric Camilleri et merci à vous Laurence Bellon d'avoir participé à cette émission. Le temps de laisser nos autres invités s'installer. Écoutons un instituteur des quartiers nord. Il s'appelle Sébastien Fournier, secrétaire départemental adjoint du SMIPP. Et il voit les réseaux se transformer et se rapprocher depuis 2 ans environ.
Qu'on constate nous sur le terrain, c'est que les réseaux maintenant, c'est des structures qui viennent de l'extérieur des quartiers, qui imposent une forme de terreur aux populations, qui se positionnent, y compris à la sortie des écoles, là où ils n'étaient pas jusqu'à maintenant, et y compris un certain nombre d'événements très inquiétants, avec notamment des tirs au moment de la sortie des élèves, qui ont conduit un certain nombre d'écoles à être confinées au moment de la sortie scolaire. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que d'abord, les populations des quartiers populaires sont les premières victimes de ça, qu'elles collaborent pas à ça dans leur immense majorité. Et je voudrais dire aussi qu'on a interpellé les pouvoirs publics sur tout ça. On a eu une réunion l'année dernière et depuis, honnêtement, la situation aux abords des écoles n'a pas changé.
Voilà pour ces propos. J'accueille nos 3 nouveaux invités, sachant qu'Olivier Martoc est toujours autour de la table. Amine Kessassi, vous êtes étudiant fondateur de l'association Conscience. Bonjour à vous.
Bonjour.
On a brossé votre portrait il y a quelques semaines, dans une semaine dans leur vie, dans le cadre du 13-14. On est ravis de vous retrouver. Bonjour Guillaume Cézanne.
Bonjour.
Directeur du centre social L'Agora, et j'accueille également Rudy Mana, bonjour.
Bonjour.
Secrétaire départemental du syndicat de police Alliance, Guillaume Cèze. On entendait cet instituteur nous dire les trafiquants devant les écoles, écoles qu'on est obligé de confiner quelquefois le temps que l'orage passe. Vous l'avez vu, vous aussi, vous voyez cela, vous aussi?
Oui, je l'ai vu et je le... Alors, on a vu une semaine, quasiment tous les matins.
Oui.
Tous les jours, effectivement. Moi, je travaille sur un...
On vous donne un autre micro parce que d'accord. Celui qui est devant vous ne fonctionne pas.
Ok. Oui, c'est un phénomène que je constate. Le centre social, il intervient sur 3 quartiers, Picon, oui. Bucherine et Le Mail. Donc sur les 3 écoles élémentaires et 5 avec les écoles maternelles qui sont sur nos territoires, oui, il y a une présence du réseau devant les écoles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui squattent, qui sont là, qui font du feu la nuit et qui sont les gens du réseau. À la sortie, devant le portail de l'école. Oui.
Olivier Martoc, vous vouliez ajouter un mot?
Non, mais ce problème, il est récurrent, et c'est vrai que c'est très étonnant, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à y mettre fin. C'est-à-dire que devant une école, on se dit, on met un officier de police, Rudy Mana est là, ça paraît simple, par définition, le réseau, il va partir. Eh bien, c'est pas si simple que ça.
Alors, Rudy Mana, réponse?
Vous savez, c'est quand il y a un réseau qui est implanté depuis de nombreuses années, que ça ramène des milliers d'euros tous les jours. Il est évident que c'est pas facile.
On le disait en titre, 80 000 euros de chiffre d'affaires pour les points de deal les plus rentables.
Voilà, les plus rentables.
Ouais.
Aujourd'hui, il faut bien faire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas qu'on reproche à la police de rien faire. Aujourd'hui, clairement, on fait quelque chose. Il y a ces opérations de pilonnage qui fonctionnent ou qui fonctionnent moins, parce qu'il y a des endroits où c'est très difficile, à travers des opérations de pilonnage, de mettre fin au réseau. Oui. Moi, je pense qu'on peut l'expliquer en imageant un petit peu l'histoire. Je prends 3 secondes. Sur des petits points de stup, c'est des petits commerces. Si vous faites une opération de pilonnage, à mon avis, on peut arriver à arrêter le réseau. Parce qu'ils ont moins d'effectifs et ils n'ont pas surtout de stupéfiants en attente pour remettre sur le marché. Ça fonctionne de manière très efficace. Puis après, vous avez les moyens points de stup, les points de stup moyens, où là, ça peut revenir, mais au bout d'un certain temps. Mais les gros points de stup, il y a énormément de gens qui travaillent dedans. Il y a du matériel qui arrive. Il y a du stupéfiant qui arrive. Donc eux, ils se reconstituent très assez vite.
Et vous n'avez pas répondu à la question pourquoi on n'arrive pas à sécuriser une école. Alors on y arrive, hein, mais voilà, ce phénomène de les trafiquants juste devant.
Ben, peut-être on y arrive, mais la difficulté de la police aujourd'hui, c'est qu'elle ne peut pas être partout. On ne peut pas être tous les jours devant toutes les écoles des quartiers difficiles pour sécuriser. C'est pas possible. On a eu des renforts d'effectifs l'année dernière de à peu près 100 policiers, mais je rappelle quand même depuis...
Il y a eu une promesse de 300 d'ailleurs. Ils sont arrivés les 300 ?
Ils sont pas encore arrivés. On les attend impatiemment pour l'année 2022. Mais effectivement, on était dans une phase de descente au niveau des policiers. On avait 400 policiers de moins depuis 10 ans. Aujourd'hui, on en a eu 100 de plus. Le ministre Darmanin les avait promis. Il les a amenés l'année dernière. On attend les 200 qui vont arriver, mais vous comprenez que c'est aussi un problème d'effectif. Si on met un policier ou deux devant chaque école, on ne fera pas autre chose.
Amine Kessassi, je le disais, on a raconté votre histoire déjà dans le cadre de ce journal, mais évidemment, tout le monde ne l'a pas en tête. Vous êtes originaire de la cité de Frévalon et en décembre 2020, vous avez perdu votre grand frère, Brahim, qui a été assassiné dans des conditions épouvantables. On dit souvent règlement de compte, vous dites non, 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 pas règlement de compte, assassinat.
Totalement, parce que juridiquement et même dans le langage policier, on appelle ça des homicides parce qu'il y a de la préméditation, parce qu'il y a tout un tas d'éléments qui est réuni. Et je parle sur le contrôle de Rudy Mana. Le terme de règlement de compte est apparu parce que c'était un code policier au début. Entre policiers, on annonçait bon bah il y a un règlement de compte qui s'est malheureusement banalisé. Mais à travers ça, à travers ces titres de journaux, quand on dit règlement de compte, on oublie que ce sont des personnes, on oublie que derrière ça, il y a des familles, que derrière ce fléau, ces barbecues, ces règlements de compte, il y a des personnes qui en souffrent.
Parlez-nous de votre association. Qu'est-ce que vous faites à travers votre association Conscience? Vous faites de l'aide juridique, de l'aide psychologique, et là, vous allez organiser une marche dans les quartiers.
Totalement. Alors, ce qu'on fait dans cette thématique, en tout cas, c'est qu'on a une cellule psychologique avec une psychologue qui est bénévole, avec un avocat et des acteurs associatifs qui sont mobilisés. Donc, dès qu'on entend qu'il y a des homicides et qu'il y a des personnes qui sont victimes de ces assassinats, on essaie d'entrer en contact avec la famille. Malheureusement, on a vu qu'il y a quelques semaines, il y a eu le premier homicide à Marseille, à Saint-Antoine. Donc, la famille est venue vers nous. On a mis à disposition l'avocat qui a récupéré le dossier de cette famille, une psychologue qui les a reçus sous les 24 heures pour discuter avec eux, pour faire un état, pour essayer de les aiguiller, de les accompagner au mieux. Et on a également pris en charge financièrement les frais d'obsèques de ce jeune pour essayer d'accompagner au mieux cette famille.
C'est 500 membres aujourd'hui à peu près l'association.
Totalement.
Sacré succès. Guillaume XVI, parlez-nous de la crèche du quartier. Il y a une notion qui est très importante, occuper le terrain.
Oui, effectivement, le réseau, hein, tous ces trafics de deal, ils occupent de l'espace et ils s'étendent dès qu'ils le peuvent. Ils prennent toutes les failles pour occuper un maximum d'espace. Et donc l'idée, c'est que les associations comme le centre social et avec toutes les assos du territoire, qu'on se mobilise pour ne pas laisser l'espace libre à la hauteur de nos moyens. Alors la crèche, c'est une histoire, je vais la faire rapidement, mais il y avait une crèche historiquement créée dans les années 80 sur une volonté des habitants. Et en 2018, on apprend que l'association porteuse va partir à cause de phénomènes de violence. Et tout de suite, le groupe de veille qui a été évoqué précédemment...
Oui, par l'habitant du quartier de la Busserine qu'on
entendait
tout à l'heure.
Voilà, ce groupe de veille des habitants de la Busserine s'est réuni à interpeller les pouvoirs publics en disant la crèche ne doit pas fermer d'abord. On ne ferme pas une crèche alors qu'une politique gouvernementale pour en ouvrir, donc on ne doit pas la fermer. Par contre, il y a des travaux qui vont être mis en place, qui vont démarrer d'ici un an seulement. Et donc la question, c'est comment fait-on avec un grand bâtiment vide en cœur de quartier pendant 2 ou 3 ans? On ne peut pas le laisser vide. S'il est vide, il sera squatté, il sera dégradé. Le réseau peut s'implanter dedans. Donc ce groupe de veille s'est mobilisé, a identifié des associations, on a passé des conventions avec les pouvoirs publics. Et cette crèche est occupée de manière temporaire par des assos, dont le centre social actuellement, pour ne pas laisser l'espace vide, surtout pas.
Et il ne vous a pas échappé que nous sommes à 80 jours du premier tour de la présidentielle. Et jusqu'en avril, nos émissions spéciales aborderont les propositions des candidats à propos du thème que nous évoquons. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Service politique de France Inter, vous êtes à Paris. Alors, à propos de la lutte contre le trafic de drogue, quelles sont les propositions des candidats du tout répressif à la légalisation du trafic de cannabis? Pas du trafic, mais de la consommation.
Oui, alors il y a effectivement deux choix, Bruno, deux axes qui se dessinent. Pour davantage de répression, Marine Le Pen, qui veut mener la guerre contre la drogue en mettant en prison les dealers, en adaptant leur peine en fonction de la quantité de drogue détenue et en investissant massivement dans l'intégration l'intégralité de la chaîne pénale. La candidate du RN opposée farouchement à la légalisation, comme la candidate LR, Valérie Pécresse, qui mise aussi sur le répressif, réhabilitation des courtes peines et davantage de places en prison en créant des centres semi-fermés dans des anciennes casernes militaires. Valérie Pécresse qui veut aussi créer des brigades coup de poing alliant plusieurs services de police, PJ, STUP, qui se concentreraient à chaque fois sur un quartier en particulier. Répressif et fermeté aussi du côté d'Emmanuel Macron qui s'est exprimé sur le sujet à Nice envers les trafiquants mais aussi les consommateurs. En août, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin promettait déjà des contrôles contre la drogue dans les beaux quartiers.
Et parmi les partisans de la légalisation alors ?
Alors le plus étonnant certainement Éric Zemmour, en mai dernier sur CNews, pas encore candidat, le polémiste admettait que la répression ne marchait pas et disait réfléchir à la légalisation ordonnée du cannabis. Depuis, il n'a pas fait de proposition concrète sur le sujet. La légalisation sous contrôle de l'État fait en revanche bel et bien partie du programme de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot. Pour les insoumis, il s'agit de changer de stratégie pour lutter plus efficacement et humainement contre les trafics, en encadrant les usages et les consommateurs. À gauche, la question divise puisque le communiste Fabien Roussel, lui, y est opposé. La socialiste Anne Hidalgo n'a pas encore donné sa position.
Légalisation de la vente de cannabis, qu'en dites-vous, nos trois interlocuteurs, Rudy Manin ?
Écoutez, nous, par principe, on est contre. Parce que si le cannabis, c'était bon pour la santé, je pense que ça serait. Si la légalisation du cannabis était une solution pour arrêter les trafics de stupéfiants, je pense que ça serait également.
Alors, là où elle est mise en place, le bilan est mitigé, pour être honnête.
Oui, le bilan est mitigé.
Mais il est ni noir ni blanc, c'est ça que
voilà,
je veux dire.
Il est pas bon non plus, quoi. Donc, et je crois pas que ça a arrêté la consommation de cannabis, et je crois pas que ça a arrêté aussi les points de stupéfiants de cannabis. Donc, je crois pas que ce soit une bonne solution.
Amine Kessassi, sur cette question.
Moi, de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu voir sur les pays où c'est légalisé, le bilan n'est peut-être pas positif, mais en tout cas, il n'est pas négatif et il n'est pas aussi lourd que le nôtre. Après, voilà, moi, personnellement, je m'y opposerai pas sur le fond, mais il y a un réel travail à faire autour de ça, parce qu'on va pas juste légaliser et dire au revoir à tout le monde. Après, il faudra travailler sur différents points. Il y a l'insertion professionnelle de tous ces jeunes qui vont se retrouver à la rue.
Bon, bah, maintenant, et vous y travaillez avec l'association. Vous avez signé un accord avec un sous-traitant d'Airbus.
Totalement. Ouais. Et puis je parle encore une fois sous le contrôle de Rudy Manin. Il y a quand même cette violence qui a diminué à Marseille. Je veux dire, les arrachages de chaînes en centre-ville, on n'en entend plus forcément parler. Les braquages, on n'en entend plus forcément parler. Je dis pas qu'il y en a plus, mais il y en a beaucoup moins. Donc aujourd'hui, si on légalise le cannabis, il va falloir travailler sur toutes ces questions pour éviter que la violence augmente de partout.
Et Guillaume XVI.
Bon, je rejoins un peu tout ce qui a été dit. Et en même temps... En même temps, on peut pas juste se dire on va maintenir le trafic parce que c'est vrai que ça évite les vols à l'arraché, mais c'est un constat que feront beaucoup d'habitants, ça c'est vrai aussi. Bon, je pense le temps passe, on fera pas un pas sur se demander pourquoi il y a autant de consommateurs en France. On parle du cannabis, mais c'est pas que ça. Nous, un des premiers fléaux qu'on a dans le quartier, c'est les bombes de gaz chantilly, des gamins très jeunes qui sniffent du gaz hilarant.
Le gaz, soi-disant
hilarant. Pourquoi en est-on là? Voilà.
Merci à tous les trois d'être venus. On doit déjà s'arrêter. On avait beaucoup, beaucoup d'autres questions. Pour clore cette émission et saluer ceux qui nous ont reçus ici au Théâtre du Zef, quel rôle pour une scène nationale dans un quartier comme celui-ci? Sarah Guibaudeau a assisté hier soir à un atelier au Théâtre du Zef et il y a plein de réponses. Vous allez voir.
On va pas tarder à commencer. Moi, je suis Edji Salem. Je travaille au Zef. En fait, à côté, je suis comédien et danseur aussi. Donc, mon poste, c'est vraiment de proposer des ateliers gratuits, un peu à qui veut, d'imaginer des projets pour que ça soit un lieu plus ouvert, que pour faciliter, on va dire, l'entrée au théâtre. Vous connaissez un peu le théâtre ?
Il y a des gens, ils se mettent sur la scène et je sais pas, ils dansent et ils parlent.
On va commencer des exercices, on va vous préparer avant et après vous allez devoir imaginer des scènes. Quand on veut, on peut rentrer dans la scène et couper la scène, rajouter des trucs.
Allô ?
Allô, oui, bonjour, c'est la directrice de l'école. C'était pour vous dire que Haroun n'est pas venu à l'école.
Mon fils n'est pas venu à l'école, il est où ? J'ai pas compris, tu étais où, toi ?
Ben, j'étais à l'école.
Comment à l'école ? La directrice, elle m'a appelé, elle m'a dit que j'étais pas là. Que tu t'as fait une semaine que j'étais pas rentrée.
Je vais le balancer à papa.
Eddy Salem, est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous êtes allé au théâtre ?
Je suis allé la première fois au théâtre, j'étais boxeur à la Busserine. Et en fait, il y a un metteur en scène qui est venu, François Cervantes, qui est venu à la salle de boxe pour dire ben, on cherche des boxeurs pour un spectacle. Et après, ils m'ont dit que c'était pour parler des quartiers nord de Marseille. Je suis allé les voir et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous connaissez des quartiers nord de Marseille? J'ai posé des questions et après, il m'a dit, ben, viens à l'atelier. Et en fait, je suis arrivé, j'ai vu que des blancs. Mais que des blancs. Après, à un moment, j'ai vu une groupe de darons du quartier. Je me suis dit, ah, ça va. Et après, de fil en aiguille, je suis rentré dans un groupe de théâtre. Je suis rentré au Merlin en tant que en service civique, où j'ai commencé à apprendre le métier des relations avec les publics. Et du coup, avec ce lien-là, aujourd'hui, fait que je suis ici avec ce poste d'animateur culturel.
Francesca Poloniato, vous êtes la directrice du ZEF, la scène nationale de Marseille. Comment vous travaillez, vous, pour faire venir plein de gens différents au théâtre ?
Alors c'est un très 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 gros travail qui peut se faire avec toute l'équipe et surtout avec les 10 artistes qui sont associés au projet. Et le projet, il est en trois mots, présence, ouverture, partage. Et des animateurs culturels comme Eddie Salem que vous avez rencontré, Zara qui est la maîtresse de maison qui travaille avec beaucoup de personnes avec de la cuisine, et Juliane qui travaille avec les jardins. Et en fait, jardin, cuisine, animation culturelle, danse, théâtre, musique, cinéma sont tous au même niveau, sont considérés de la même manière. On fait art et territoire. Et le théâtre est ouvert aux habitants. Et j'adore quand ils disent c'est notre théâtre. Et la plus grande fierté de cette scène nationale, c'est d'avoir sur le même banc, en regardant le même spectacle, des personnes complètement différentes, de cultures différentes, de couleurs différentes, de statuts sociaux différents. Et c'est la plus grande fierté de l'équipe du ZEF. Et puis on va aussi beaucoup avec eux, c'est-à-dire qu'on va aussi à leur rencontre, on travaille avec les centres sociaux. Il y a un bâtiment qui a brûlé dans le quartier juste au-dessus, et c'était le bâtiment où il y avait l'aide aux devoirs des enfants. Il doit y avoir 2 mois de ça, parce que c'était un moment où ça a été aussi des règlements de compte avec le réseau drogue, et ils se sont retrouvés sans rien. Et je l'ai su lors d'une réunion. Je lui ai dit, mais nous, on a le hall, billetterie, on a la véranda, on peut transformer ça en salle de classe. Ben, je lui ai dit, ben voilà, le mercredi matin, et donc ils viennent faire leur devoir ici. Et ça, ça me plaît, parce que ils voient les techniciens traverser le hall parce qu'ils vont travailler, ils voient des artistes arriver, ils me voient moi passer, en même temps, ils font l'aide aux devoirs. Et ça, ce sont des rencontres, et ben on les retrouve après, dans les salles de spectacle. En tous les cas, depuis l'ouverture de saison, nous avons eu la chance d'avoir aucune annulation de spectacle. Et surtout, j'ai la chance d'avoir des jeunes dans la salle qui n'ont pas peur de sortir. Et du coup, les salles sont pleines.
Voilà pour ce reportage de Sarah Guibaudot, tourné hier soir. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré dans un tout petit instant. Quel est le programme ?
Quand les animaux nous font du bien.
À tout de suite.
Écoutez les infos.
Savoir le vrai du faux.
Se faire une opinion.
Et entrer dans l'action.
Avec l'appli Radio France et la plateforme radiofrance.fr, retrouvez toute l'information en accès libre.
En direct ou en podcast.
Radio France.
Entrée libre.
Entreprendre, c'est toujours une grande aventure. Mais trop souvent, entreprendre rime avec attendre. Attendre l'ouverture de votre compte pro. Attendre qu'un conseiller prenne votre appel. Attendre que vos virements soient effectués. Attendez, vous n'en avez pas assez d'attendre. Alors passez chez Conto, le compte qui facilite la vie des pros. Avec Conto, ouvrir un compte pro en ligne ne prend que 10 minutes. La gestion de vos notes de frais se fait en temps réel et vous profitez d'un service client ultra réactif 7 jours sur 7. Conto, le compte au service des pros.
Pour ce 13-14 à Marseille, merci à Francesca Poloniato et toute l'équipe du Théâtre du ZEF qui nous a accueillis. Merci à Sarah Guibaudot, Claire-Sophie Collet, Sandrine Bréchaud, Hélène Langlois, Fabien Gosset et Ibrahim Seliem. Je voudrais terminer sur ces mots là, au cœur des quartiers nord, peints sur le pont urbain face à moi. Le désir de regarder loin. 14h03 sur Inter.